L'actu spéciale législative, le grand oral des candidats des Alpes du Sud.
Le grand oral des candidats pour les législatives, nous sommes, je vous le rappelle ce soir, dans les Hautes-Alpes, sur la première circonscription, avec un candidat qui était investi initialement par la Convergence citoyenne, mais qui entre-temps a vu son investiture disparaître. Mais pour autant, il décide de poursuivre cette campagne. Il est candidat aujourd'hui avec le Parti communiste français, notre invité ce soir, et Pierre Villard. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. La Convergence citoyenne considère finalement que sur la première circonscription, la multiplication des candidatures est néfaste, si on devait résumer rapidement leur point de vue. Les communistes aussi ont fait le choix de se désister dans certaines circonscriptions pour soutenir des candidats de la France Insoumise, d'Europe Écologie des Verts ou même du Parti Socialiste ou d'Ensemble. Mais vous continuez. Pourquoi ?
Bonsoir à tous. Donc moi, je suis proposé à la candidature pour cette législative depuis de longs mois, hein, par notamment le Parti communiste, qui dans un premier temps avait proposé des candidats divers pour les deux circonscriptions. Et ensuite, nous, on s'était engagé donc dans la dynamique de la convergence citoyenne, parce que ça nous semblait une dynamique très très importante. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, que ma candidature avait été retenue par les gens de la convergence citoyenne, comme étant une candidature... Bon, certains disaient naturel, mais rassembleuse d'union, en tout cas qui identifiait bien le rassemblement qu'on voulait porter. Alors après, vous posez d'autres questions connexes, c'est-à-dire que il y a eu effectivement les élections présidentielles. Moi personnellement, j'ai pas caché que je soutenais Jean-Luc Mélenchon, certes comme le Parti communiste, mais aussi à titre individuel.
Mais alors, voilà. Et alors pourquoi pas tout simplement soutenir la France insoumise, même si ce n'est pas votre candidature qui a été investie?
Alors, nous, on est parti dans une démarche relativement ancienne, d'accord ? Nous aurions trouvé tout à fait naturel que la France Insoumise, effectivement, se retrouve aussi dans cette démarche-là, puisque la démarche de la convergence citoyenne, c'est une démarche qui avait pour objectif d'aller au-delà des partis, et donc, nous, il nous semblait que la France Insoumise pouvait avoir sa place dans cet attelage, chose qu'il a été, finalement, impossible de discuter.
Mmh. C'est cette charte, voilà, qui a posé problème.
On se trouve...
Mais cette charte, oui, est centrée autour de Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, non, enfin, on ne peut pas dire que la charte elle est centrée autour de Jean-Luc Mélenchon.
Autour du programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il est verrouillé et on ne peut pas le négocier.
Oui, voilà, c'est-à-dire que vous comprenez, ça fait plusieurs mois que dans ce département, on organise des ateliers citoyens, on demande aux gens leur avis, on a l'idée de faire partir des choses du territoire, et on va aller leur dire, bon, ben, tout ce que vous avez fait, non, c'est plus la peine, ça ne sert à rien, il y a un programme national... voilà, c'est un peu contradictoire. Ouais. Alors effectivement, il y a des endroits, non, parce que vous avez dit plein de choses en même temps. Il est sûr qu'au niveau national, il aurait fallu qu'il y ait une vraie dynamique unitaire. Nous, ouais, en tout cas, on a essayé de la porter avec, y compris Jean-Luc Mélenchon comme coordinateur général. Je dirais, il a une légitimité. Si les communistes l'ont choisi comme étant leur candidat et qu'ils n'ont pas présenté un autre candidat à l'élection présidentielle, il y a quand même des raisons. Voilà, donc on est très très proche.
Oui. Enfin, initialement,
ça n'a pas été rendu possible.
Initialement, ça partait effectivement d'un bon sentiment. On en a vu les résultats par la suite, c'est-à-dire que Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ne sont plus du tout sur la même ligne de conduite politique.
J'aimerais revenir. Ni les Verts, ni Ensemble, ni les Amonistes.
Ouais. Mais j'aimerais revenir, avant qu'on poursuive quand même, revenir sur ma question initiale, la toute première. Parce que j'ai pas eu de réponse. Pourquoi vous poursuivez votre candidature, votre campagne, alors que vous le dites, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon, il y a un risque de voir les voix s'éparpiller, et la France Insoumise a un candidat qui est investi. Pourquoi tout simplement pas dire comme la Convergence citoyenne,
oui, mais
on se retire.
La question, alors d'abord, la Convergence citoyenne ne se retire pas de partout.
Non,
voilà.
Sur la deuxième circonscription.
La Convergence citoyenne se maintient dans la deuxième circonscription, et ils ont tout à fait raison. Et dans la première circonscription, la Convergence citoyenne a souhaité, continue, mais à considérer qu'elle zappait, en tant que convergence citoyenne, l'épisode des élections législatives. Voilà. À partir de là, le Parti communiste, qui au départ avait envisagé des candidats, mais les avait mis à disposition de la convergence citoyenne, un parti politique, ça a pour objectif de participer aux élections, sinon ça sert à rien. Voilà. Donc il aurait été possible, peut-être, si en face de nous, on avait eu des gens qui avaient envie de discuter, mais j'ai entendu parler de main tendue, excusez-moi, mais je rigole. C'est-à-dire que si des gens ont tendu des mains, c'est bien nous avec Karine Briançon, c'est bien moi à titre personnel. Celui qui a pris... moi, j'ai envoyé un courrier à tous les responsables locaux de la France Insoumise. J'ai pris mon téléphone. Il n'y a eu aucune volonté de discuter. Il y avait toujours cette chape, signer la charte. La charte, d'un côté, c'est quelque chose d'intelligent au sens où c'est des engagements que l'on prend. bien évidemment. En même temps, moi, il me semblait qu'il y avait une incohérence entre signer une charte dans laquelle on s'engage à un mandat impératif venant d'un groupe, voilà, et en même temps, l'idée d'être issu des territoires et de vouloir porter ce que les gens des territoires mettent en avant. Et qu'est-ce qui se serait passé et qu'est-ce qui se passera, en fait, lorsque il y aura, j'entendais hier sur votre radio, par exemple, Madame Assot dire, moi, j'hésiterai pas à être contre mon groupe s'il y a des décisions. Mais un parlementaire, il faut aussi qu'il ait sa liberté de conscience. Le mandat impératif, ça n'existe pas dans la Constitution. Donc, en fait, on s'est un peu trouvé à des gens, excusez-moi de le dire comme ça, mais que je considère un peu obtus, où rien n'a été possible. Mais maintenant que les choses soient claires, moi, mon objectif, je ne me présente pas contre la France insoumise. C'est, on peut même presque dire que c'est eux qui arrivent après nous, mais on va pas se battre là-dessus. Je veux dire, moi, je leur souhaite une bonne campagne. Ils décident de mettre un jeune étudiant de 19 ans qui est étudiant à Lille, membre du parti de gauche depuis un certain nombre d'années. C'est très très bien. Moi, je suis pas opposé à eux.
C'est le candidat suppléant, ça. Hein.
Oui, mais
préciser tout de même.
Mais Monsieur Breton est le candidat suppléant.
Madame Flandin est quelqu'un qui démarre en politique, ben c'est très très bien. Moi je leur souhaite plein succès. Et c'est pas sûr du tout qu'on soit exactement sur le même électorat. C'est-à-dire que moi je suis surpris du nombre de gens qui en fait parce que vous voyez, on a un peu tendance à considérer que c'est les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont décider. Mais d'abord les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y en a plein qui n'étaient pas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon auparavant. C'est quand même oublier que les militants communistes se sont aussi grandement investis dans cette campagne. Et moi-même, parce que j'ai dire...
Pierre Villard,
avant... les gens du BUH, ils savent combien je me suis investi dans cette campagne.
Poursuivons, il y a la France Insoumise, mais il y a aussi Europe Écologie Les Verts, qui faisait partie de la Convergence Citoyenne et qui, finalement, aujourd'hui, figure du côté de la candidate PS, Karine Berger.
Eh bien oui, ça fait aussi partie des contradictions. Donc vous voyez, en fait, on était dans un attelage politique...
Contradiction ou échec ? Échec de la Convergence Citoyenne ? Contradiction ou échec ?
Bon, échec, c'est un mot qui est fort.
C'est-à-dire la région coopérative a fonctionné en décembre 2015.
Oui.
La convergence citoyenne ne parvient pas en mai 2017.
La convergence citoyenne n'a pas réussi l'échéance de l'élection législative de 2017 sur la première circonscription. Voilà, peut-être qu'on n'aurait pas dû y aller du tout. Mais ça ne remet pas en cause ni le processus de la convergence citoyenne, ni l'engagement des gens qui y sont. Voilà, les choses, elles vont démarrer. L'objectif, c'est de rassembler les citoyens de ce département pour leur redonner de l'espoir. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais poursuivre la dynamique qui a été lancée depuis plusieurs mois.
Mais sans Karine Briançon, qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous a pas suivi, celle qui était votre suppléante initialement ?
Alors, je le regrette parce qu'avec Karine, je pense qu'on faisait un bon attelage. Voilà. Karine Briançon, vu l'évolution des choses, elle n'a pas souhaité continuer cet engagement-là. Qui est modifié quand même. Enfin, je veux dire, faut être honnête. Je le reconnais. Voilà. Mais vous-même, je pense que vous reconnaissez aussi la logique de l'engagement des communistes depuis plusieurs mois.
Ça sera aux électeurs de voir effectivement quelle logique ici.
Bien sûr.
Voilà.
Donc j'ai une nouvelle suppléante qui s'appelle donc Nathalie Mayeudon, qui est infirmière libérale à Gap. Et qui fera une très bonne suppléante également.
Qu'on connaît déjà sur Alpe 1 puisqu'on l'avait déjà reçu.
Oui, bien sûr.
En tout cas, de la logique au départ, atelier citoyen avec le programme citoyen, aujourd'hui vous devrez respecter le programme de la France en commun, c'est-à-dire le programme du Parti communiste français qui propose.
Comment ça, non ?
Vous l'avez quand même devant vos yeux, hein,
évidemment.
Les auditeurs.
Non mais attendez, évidemment, je l'ai devant mes yeux, mais j'ai aussi tout le travail qu'on a fait avec la convergence. Et pour moi, c'est un mixte qu'il faut arriver à faire. Moi, en tout cas, mes engagements principaux, c'est les engagements que je prends vis-à-vis des électeurs au Alpin.
Oui.
Voilà, je serai un député issu du territoire des Hautes-Alpes. Et je suis pas là pour aller vendre, entre guillemets, une marchandise construite à l'extérieur.
Ce qui est quelque part rassurant, parce que quand on se plonge dans le programme de la France en commun, on n'y trouve pas forcément des réponses en ce qui concerne les territoires ruraux sur des points bien précis. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous sur ce programme.
Le programme qui veut supprimer le CICE, donc le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, et réformer l'impôt sur les sociétés, et là je cite, pour en accroître le poids. Un impôt qui serait donc progressif en fonction du chiffre d'affaires qui oscillerait entre 30 et 50%. Ça veut dire qu'on va étouffer les entreprises, y compris les TPE et les PME.
Alors, écoutez, on a déjà parlé de ça ensemble la dernière fois. Hein. L'idée générale...
On aime bien se rafraîchir les idées. Pour voir si les choses tiennent et si elles sont toujours cohérentes. C'est pour ça qu'on en reparle.
Mais il n'y a aucun souci.
D'accord.
Je ne vous ai jamais reproché de faire votre travail correctement.
Je vous en prie. J'ai bien compris.
Je suis très content d'être chez vous.
Non,
parce que je sais que.
J'ai bien entendu
vous
comme
allez
ça.
Au fond des choses.
Alors, cet
donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, l'idée, c'est que, aujourd'hui, en fait, il y a une inégalité. Il y a une inégalité entre, effectivement, la manière dont les entreprises des Hautes-Alpes sont traitées par l'impôt. Donc, principalement des TPE, hein, puisque c'est quand même le tissu économique de notre département, et des grandes sociétés multinationales, qui sont pas obligatoirement beaucoup dans le département, mais qui finalement, proportionnellement, ont des devoirs vis-à-vis de la solidarité nationale qui sont beaucoup plus faibles que ça. Donc, l'idée générale, et moi, c'est ça l'idée que je porterai comme parlementaire, et peut-être c'est pas exactement inscrit comme ça dans le programme national de la France en commun, c'est possible, hein, mais je le porterai, c'est l'idée qu'il faut moduler, il faut que la solidarité nationale, elle soit à tous les niveaux, y compris au niveau de l'entreprise. Et dans les Hautes-Alpes, il faut redonner de la capacité, il faut donner du pouvoir d'achat aux gens, et donner la capacité aux entreprises de payer correctement leurs salariés.
C'est-à-dire
Eh bien, c'est-à-dire, justement, moduler ce qu'on appelle les charges. Mais en fait, les charges, c'est un peu pervers de parler de charges. C'est-à-dire qu'on a un système aujourd'hui économique qui s'appuie sur la solidarité nationale. Et la plupart du temps, ce qu'on appelle des charges, en fait, c'est ce qu'on appelle du salaire différé. C'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de verser ça aux salariés, c'est versé pour la sécurité sociale, c'est versé pour les accidents du travail, c'est versé... Alors, il y a la partie impôt, en tant que telle, qui est liée sur la richesse et compagnie, hein. Et puis, il y a toute la partie de solidarité nationale. C'est pas complètement juste de parler de charges. Donc, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut réformer aujourd'hui. Il faut une réforme fiscale en profondeur, qui permette aux TPE de pouvoir travailler correctement, mais ce qui permettra surtout aux TPE
et de baisser
de se
les
développer,
charges, de baisser les charges.
Oui, pardon, parce que je comprends pas. Oui, je reviens quand même sur ma question.
Vous avez un peu perdu aussi.
Je reprends ma question initiale.
Pour moi, ça apparaissait clair.
Mais non, c'est pas très clair.
Alors,
justement.
Allez-y.
C'est pas très très clair parce que cet impôt est progressif en fonction du chiffre d'affaires. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour se dire que si une entreprise fonctionne bien, y compris si c'est une TPE ou une PME, elle paiera plus d'impôts. Comment vous voulez qu'elle embauche plus si elle paye plus d'impôts?
Mais je comprends pas votre logique.
Bah, la logique, c'est quand même celle-là. Un impôt progressif en fonction du chiffre d'affaires. Donc, plus on réussit, plus on paye d'impôts, moins on peut embaucher.
Mais ce qui est sûr, c'est que dans le changement de paradigme sur la fiscalité des entreprises, il faut arrêter que l'impôt soit lié à la personne et au nombre de personnes qui travaillent. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez un entrepreneur du bâtiment dans notre département, par exemple, qui a 5-6 employés. D'accord ? Aujourd'hui, il paye de l'impôt en fonction du nombre d'employés. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il gagne beaucoup d'argent. Et puis vous pouvez avoir une autre entreprise qui fait un autre type de travail, avec juste un ou deux employés, mais qui a des bénéfices beaucoup plus importants et qui ne participera finalement, qui participera finalement moins à la solidarité par la fiscalité que l'entrepreneur du BTP qui a 5 ou 6. Vous voyez, donc c'est ça l'idée. Et je pense que moi, je ne suis pas pour opposer les patrons des TPE à leurs employés. Je pense que dans notre département, tout le monde est un peu, si ce n'est dans la même galère, en tout cas dans le même département rural.
Pierre Villard, candidat pour le Parti communiste français sur la première circonscription des Hautes-Alpes, est notre invité. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on va bien sûr poursuivre cette discussion dans le grand oral des candidats pour les législatives.
Au bout de l'actu, spéciale législative, le grand oral des candidats des Alpes du Sud.
Le grand oral des candidats pour les législatives dans les Alpes du Sud. Ce soir, je vous le rappelle, nous sommes dans les Hautes-Alpes, sur la première circonscription. Et nous sommes avec le candidat du Parti communiste français, Pierre Villard, Sériel.
Parlons de salaire, ce qui peut intéresser tout le monde. Est-ce que c'est une mesure que vous pourriez défendre, la mesure du PCF, qui veut renégocier l'indemnité du chômage pour l'amener à 80% du salaire brut perçu, ce qui veut dire que qu'on gagne 1159 euros ou 12 516 euros, on touchera toujours 80% de son salaire perçu.
Alors écoutez,
au chômage.
Moi je ne vais pas rentrer dans des choses qui peuvent apparaître un peu techniques. Ce qui est sûr,
assez concrète quand même. Là on parle de salaire. Hein.
Oui. Non mais attendez.
Alors pour préciser simplement, pour mettre en parallèle, c'est que là si on donne 80% du salaire brut pour le PCF aujourd'hui, c'est quand on touche un salaire inférieur à 1159 euros brut qu'on va toucher 75% du salaire brut et puis au fur et à mesure qu'on touchera, ce sera dégressif. Voilà. Bon, donc alors, là finalement, ça n'est pas dégressif, c'est 80%.
Non mais ce qui est sûr, c'est que il faut qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Hauts-Alpins. Voilà. Et que Aujourd'hui, il y a des bas salaires. Voilà. Et donc, il faut réaugmenter, effectivement, les bas salaires. C'est pour ça que...
À quelle hauteur?
Eh bien, nous, on est pour passer le SMIC à 1800 euros brut, c'est-à-dire à peu près 1450 euros net. D'accord? C'est pour ça que cette question d'augmentation des salaires, elle est liée, comme on en a parlé tout à l'heure, à la capacité des petites entreprises de pouvoir le faire, bien entendu, parce qu'il n'est pas question du tout de casser les entreprises. Hein. Mais c'est lié aussi, dans la fonction publique, on n'a pas obligatoirement ce problème-là. Il faut quand même savoir que dans la fonction publique, il y a toujours des salaires de base qui sont inférieurs au niveau légal du SMIC et où les gens touchent une indemnité compensatoire, notamment les plus bas salaires, pour être au niveau du SMIC. Donc, il faut redonner du pouvoir d'achat. Donc, ça passe par le SMIC, mais pas uniquement. Par les allocations chômage, par l'allocation d'adultes handicapés, enfin, par l'ensemble des prestations sociales.
Et par un temps légal du travail qui passerait, selon le Parti communiste français, à 32 heures.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, et j'ai entendu d'autres candidats un peu hésiter là-dessus sur vos ondes. Moi, je n'hésite pas. Nous sommes... Il faut partager le travail aujourd'hui. Il faut partager le travail. Parce que ce travail libéré, c'est de la richesse. Je veux dire, quand j'entends des gens remettre en cause des 35 heures, en considérant qu'il faut que les gens travaillent plus à salaire égal, mais quand les gens ont du temps, dans un département comme le nôtre, qui est fortement dévoué au loisir, hein, et ben toutes les entreprises de loisirs, elles travaillent pourquoi? Parce que des gens, il y a des RTT, parce que des gens ont peut-être un jour de moins de travail dans la semaine, donc peuvent aller faire des via ferrata, peuvent aller au bain des monnettiers, peuvent aller à la piscine, peuvent aller faire des balades à dos d'âne, peuvent faire énormément de choses. Donc vous voyez, la réduction du temps de travail, c'est pas qu'une question idéologique, c'est une question fortement politique, parce qu'elle va redonner, elle va développer le travail des autres.
Je reviendrai simplement sur l'augmentation du SMIC, vous le disiez, immédiatement à 1800 euros brut et 1700 euros net à la fin du mandat, c'est ce qui est proposé par le Parti communiste français.
Oui, ça a discuté avec les partenaires.
Ça a discuté,
évidemment.
Mais ça a discuté aussi avec l'Europe, puisque, et ça concerne directement les Hautes-Alpes, on parle énormément de l'Italie, il y a la volonté d'harmoniser les salaires en Europe. Mais comment on évite le dumping social et comment on leur impose de payer leurs salariés 1700 euros net dans 5 ans?
Alors la question que vous soulevez, elle est très très importante, parce qu'aujourd'hui on est dans une logique européenne, voire internationale, hein, d'opposition des gens les uns contre les autres. Et d'ailleurs, moi je porte aussi toutes ces valeurs humaines-là par l'intermédiaire de mes engagements pour la paix, et j'espère qu'on pourra parler un petit peu de ça à un moment donné, mais parce que le dumping social, l'opposition des gens les uns contre les autres, c'est une vraie guerre économique et une guerre sociale. Donc oui, il y a besoin de travailler avec les autres partenaires et avec les élus à tous les niveaux, y compris notamment les élus européens. Donc il va de soi que c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance, voilà, qu'il y aura besoin de mobilisation sociale. Vous voyez, et en ce moment, je fais le tour de l'ensemble des organisations syndicales du département pour écouter et voir ce que les organisations syndicales ont apporté. Et je suis un peu surpris, finalement, du peu de contact que les élus sortants entretiennent jusqu'à présent, semble-t-il, hein, avec les forces vives de ce département.
Puisqu'on en est à parler un tout petit peu de l'Europe, et après on va parler des thématiques que vous souhaitez développer dans votre campagne, mais puisqu'on en a parlé de l'Europe, est-ce qu'il faut s'aligner au taux de fiscalité moyen de l'Europe qui est de 24% pour les entreprises, passer de ce qui est en France à 33% environ, à 24%? Est-ce qu'il faut baisser ses charges? Parce que le taux de fiscalité est trop haut.
Moi, je suis pas un expert et je connais pas tout, parce qu'évidemment, on peut pas être spécialiste dans tout. Hein. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je porte, c'est une modulation de la fiscalité qui permette aux entreprises du département d'exister, de se développer et de payer correctement leurs salaires.
Une modulation de la fiscalité, par quel levier, par quel circuit, comment on adapte ça? C'est-à-dire que c'est à la carte?
Non, c'est ce que... Tout à l'heure, je vous parle d'une réforme de la fiscalité.
Ouais.
Il y a besoin de réformer la fiscalité pour qu'elle soit plus juste. Donc après, s'enclenche un processus de discussion avec les partenaires sociaux, avec les représentants des organisations patronales, et on s'aperçoit que dans les organisations patronales, par exemple, ce que défend le MEDEF ou ce que défend les chambres consulaires dans le département, c'est pas obligatoirement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une position qui est idéologique, a priori, on va dire, et il y a des gens qui défendent des positions qui sont plus adaptées aux réalités du territoire. Et donc moi je pense que cette réforme fiscale, elle doit pas être imposée, elle doit être discutée avec l'ensemble des partenaires. Et dans une entreprise, il y a le partenaire qui est le chef d'entreprise, le patron, et il y a aussi les salariés. et les organisations syndicales, quand il y en a, mais dans notre département, il y a beaucoup d'endroits où il n'y en a pas.
Alors on le disait, la France en commun, c'est le programme officiel du Parti communiste français, et puis il y a aussi le programme alternatif, qui est le vôtre, que vous portez pour le département.
Et quelles sont vos idées? Notamment, on a parlé de la richesse économique des entreprises, il y a deux autres richesses, c'est le tourisme et c'est l'agriculture.
Oui. Alors moi, c'est pas le mien, mais le programme
que vous portez.
Voilà, les valeurs que je vais porter, je souhaite les résumer en 5 mots clés, qui sont, on va retrouver ce que vous m'avez posé comme question dedans, parce qu'en fait on retrouve tout, mais l'idée c'est la ruralité, et oui j'ai la ruralité à cœur.
C'est bien le moindre qu'on pourrait vous demander.
C'est le moindre, oui, mais faut voir ce que ça veut dire.
Oui.
Voilà, parce que quand on défend la ruralité en faisant une politique qui casse les services publics, c'est pas défendre la ruralité.
Donc on défend les services publics.
La ruralité, le partage, l'égalité, la démocratie et la paix. Voilà, c'est 5 mots clés, pour moi, qui identifient le programme que je vais porter dans les semaines qui nous restent d'ici le premier tour.
Donc, alors, ruralité à cœur, voilà. Les services publics.
Alors, pour la ruralité, il y a à la fois la question des services publics. Vous savez qu'il y a une étude qui a montré une étude récente qui a montré que, en fait, dans les lieux où on ferme les bureaux de poste, le score du Front National augmente. En fait, quand on ferme les services publics dans nos départements, dans nos communes, ça produit un isolement des populations. Les gens, finalement, ont moins de contact avec les autres parce qu'ils ont moins de lieux de rencontre. Alors certes, actuellement, dans notre département, il y a un certain nombre de lieux alternatifs qui se développent, des cafés associatifs et tout ça, mais ça remplace pas et c'est pas obligatoirement les mêmes populations. Donc, dans nos territoires, le maintien déjà et le développement des services publics, c'est essentiel. Voilà. Et services publics, c'est à la fois l'école. C'est effectivement, aujourd'hui, il y a de graves menaces sur les trésoreries. Par exemple, avec la nouvelle intercommunalité Sisteron-et-Bioche, de nombreux actes qui étaient faits par la trésorerie de la Ragne, maintenant, sont faits à Sisteron. Donc, quid de la trésorerie de la Ragne dans les années à venir? On a vu que la fermeture des points de l'équipement, des EDF... Avant, quand il y avait un problème, on avait relativement proche, en fait, des interlocuteurs avec qui on pouvait parler. Maintenant, vous prenez votre téléphone, appuyez sur la touche 1, appuyez sur la touche 2, et compagnie.
Mais pardon, là, vous faites quoi pour lutter contre ça, qui est un développement, je dirais, naturel, voulu ou pas voulu, mais la réalité aussi, vous parliez de la poste, m'est arrivé, moi aussi, d'aller voir mon facteur ou ma factrice, qui m'a dit, mais la réalité, elle est toute simple, les gens ne vont plus à la poste, parce que tout est disponible par Internet, par exemple. Ils n'envoient plus de courrier, on ne vend plus de timbres.
On crée notre propre disparition des services publics.
Il est évident qu'il y a une évolution des modes de vie. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut vider les campagnes des services qui existent. Il faut sans doute réfléchir à la manière dont les services évoluent, peut-être créer des nouveaux services. Dans un département comme le nôtre, par exemple, où on a de plus en plus de personnes âgées, aujourd'hui, tout ce qui est lié à la dépendance, au handicap, en fait, on fait la plupart du temps appel à des structures privées, qui font pas obligatoirement mal leur travail, d'ailleurs. Donc moi, je suis pour, et ça fait partie des choses qui sortent des ateliers législatifs qu'on a fait, développer un grand service public d'aide à la personne, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées, qui permettent à ce que dans notre département, on puisse vivre vieux dans de bonnes conditions. Vous parliez du tourisme. Parce que la ruralité, ça veut... Enfin, j'allais dire, ça veut tout et rien dire.
Alors attendez, juste avant de parler du tourisme quand même, parce que là, on est dans le cœur, vous nous disiez, les services publics, il faut les maintenir. Un lien aussi direct avec ça veut dire que la baisse de dotation aux collectivités, il faut l'arrêter.
Et bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'ensemble des députés communistes ont voté contre cette baisse des dotations.
Question simple, pense simple.
Oui, bien sûr. Oui, mais c'est important de
rappeler. Bien sûr, oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Le tourisme, alors, dans tout ça.
C'est comme, un petit complément de ça, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais puisqu'on parle des collectivités, moi, je porterai la réintroduction de la compétence générale pour les communes. Aujourd'hui, les communes, à quoi elles vont servir? Aujourd'hui, il y a une rébellion relativement forte des maires des plus petites communes. Voilà. Qui aujourd'hui s'inquiètent de voir leur capacité d'intervention s'amenuiser. Et pas qu'au niveau financier. Il y a effectivement le niveau financier, mais le niveau stratégique.
Je vous coupe, Pierre, là, parce qu'on arrive malheureusement au terme de notre rencontre, mais je vois que vous vouliez dire un mot sur le tourisme, c'est peut-être important dans votre campagne, sur ce sujet.
Parce que le tourisme et l'agriculture, qui sont des
étroitement liés, bien sûr,
extrêmement liés dans le département, il y a besoin de retravailler à développer le tourisme social dans ce département. On ne s'en sortira pas si on ne développe qu'un tourisme pour les plus riches. Il faut un tourisme qui soit adapté au territoire. Il faut que, quand on voit par exemple aujourd'hui le prix des stations de ski, enfin le prix des forfaits des stations de ski, quand on voit l'argent que le Conseil général met dans les stations, on pourrait penser que les Hauts Alpins, par exemple, puissent retrouver une partie de leur investissement des impôts avec des tarifs préférentiels. Mmh. Ça dépend pas des députés.
Oui, hein, c'est ce que je veux dire.
Donc je le porterai pas. Mmh. Hein, mais en tout cas, je pense
mais ça
que
fait
ce qui
pas
peut
mal
être
de
porté,
dire.
Mmh. Ben oui, parce que c'est une question de valeur aussi. Quelles sont les valeurs qu'on porte? Voilà. Donc il faut réinvestir fortement le tourisme social dans les Hautes-Alpes.
Pierre Villard était notre invité ce soir pour le grand oral des candidats aux législatives. Je vous rappelle qu'il est candidat pour le Parti communiste français sur la première circonscription des Hautes-Alpes. Merci d'avoir été notre invité.
Merci de votre accueil.
Et à très bientôt sur Alpe 1, 18h54. Tout juste, on va laisser la main dans un instant à Thierry Maslis, au Coq à l'âne et à tous ses invités. Ce soir, c'est un conseiller municipal d'opposition dans le nord des Hautes-Alpes qui est son invité. C'est Romain Crisca qui est conseiller municipal d'opposition à Briançon. Ils vont avec tous ses invités, évidemment, refaire l'actualité à leur sauce. Nous, on se retrouve tout à l'heure à 20h pour le récap de l'info. À tout à l'heure.